Pourquoi opposer les clients aux marchands open source?
Alors, je crois qu'il ne faut pas les opposer. Simplement, il faut clarifier. Je crois que je vous ai montré que c'est très intéressant de regarder quel est l'intérêt des gens. C'est pas mal de vendre, c'est pas bien d'acheter. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est de regarder quels sont les intérêts des gens. Il y a des méchants clients, des méchants marchands, mais au lieu, justement, plutôt que de les opposer, c'est savoir comment ils peuvent trouver leur intérêt ensemble. Le bon angle, la bonne manière d'acheter, c'est pas d'acheter tout seul. Et d'une certaine manière, acheter tout seul, c'est stupide. Mais d'une certaine manière, il y a aussi une manière pas bien de vendre, qui est de vendre la même chose à plusieurs personnes. Je vais vous dire à quoi je pense. Il y a quelques années, autour d'une table, il y avait plusieurs ministères, plusieurs grands comptes, et nous parlions du même produit. On faisait évoluer, pour dire. Et j'entends deux voisins qui se disent: je sais pas, je viens de faire développer une fonctionnalité extraordinaire. Et son voisin lui dit: moi aussi. C'était le même prestataire qui leur avait vendu deux fois. Alors c'était bien sûr du tout. Mais enfin, ils se sont aperçus qu'ils se sont fait un peu flouer. Voilà. Donc il ne faut pas les opposer, mais il y a une manière de le faire bien. Et donc pour le client, de le faire ensemble. Et pour le marchand, de ne pas trop prendre ses clients séparément pour les investir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai attiré d'autres questions.
Je vais le dénoncer puisque c'est moi qui ai posé la question.
Le sujet, effectivement, de la vente deux fois par le même prestataire, on l'a tous vu, on l'a tous connu. Et en fait, j'ai posé cette question, parce que tu l'as dit tout à l'heure, en fait, j'ai bien aimé cette planche où il y avait donc les trois acteurs, les trois communautés. Malgré tout, moi, je voulais réagir, en fait. Hein, je ne peux pas laisser, parce qu'on a été, en fait, au sens, dans les premières années d'Inagora, en fait, en tant que sur les CS2L, on a été aussi acteurs de l'utilisation. Le problème, c'est que tout le monde, effectivement, comme tu l'as dit, mais je crois que tu l'as dit, c'est, il y a des mauvais marchands. Il faut faire attention à qui on contractualise, en fait, sur ces marchés, en fait, qui sont dédiés au logiciel. Certains acteurs traditionnels, finalement, d'intégrateurs, ont vu une nouvelle pépite, de marché, et il faut tout simplement voilà, attirer l'attention sur qu'il y a des acteurs spécialisés, il y a des acteurs qui le sont un peu moins, et effectivement, ceux qui sont les acteurs spécialisés, je crois, partagent ce qui a écrit derrière toi, donc liberté, égalité, fraternité, et on fait ce travail, et tu le sais bien en fait, on fait ce travail d'essayer de faire converger des intérêts parfois divergents des clients publics vers des solutions libres. Essayer de faire cette mutualisation. Voilà, c'est pour ça que je voulais tout simplement réagir.
Je vais répondre de manière encore plus précise. J'ai distingué les bons et les mauvais. Je vais aller plus loin et dire où sont les très bons et les très mauvais. Il y a effectivement des entreprises qui ont anticipé sur la mutualisation et qui ont fait de leurs clients une communauté qu'ils ont intégrée pour le développement. Et ils se sont servis de leur communauté de clients en leur disant: faites ensemble. Un petit peu comme s'ils avaient fait des appels de demande au lieu d'appels d'offres, disant aux clients: vous savez, on pourrait faire ça, vous n'avez pas encore le besoin, mais sachez-le, on peut y répondre et on pourrait vous faire ça ensemble. Et ça, d'une certaine manière, c'est très bien et certains acteurs l'ont fait. Et puis, du côté des clients, il y a des choses très, très, très pas bien du tout. Je crois que certaines collectivités développent du logiciel qu'elles vendent à d'autres collectivités. Voilà, je n'irai pas plus loin.
Des noms. Chacun se reconnaîtra. Autre question très intéressante. Donc le temps des clients colisés est arrivé. Il y a des exemples de projets. Mais quid de la gouvernance? Lily est en.
Oui,
c'est un exemple.
C'est assez compliqué. Il y a quelques années, on avait réfléchi. C'était, je crois que. Par exemple, Poitou-Charentes, vous m'avez demandé ça. Comment on pourrait recruter un administrateur de projet. En fait, la gouvernance va reposer sur le fait d'externaliser le pilotage. On développe ensemble, on finance une solution, ensuite il faut la faire vivre. Et je pense qu'il y a un moment, il faut se dire, c'est pas à nous de la faire vivre, on n'est pas là pour faire du support et répondre aux collègues qui nous disent que la solution ne marche pas. J'ai des DSI qui nous disent clairement, hein, il n'est pas question que je fasse soit dans ce projet, sinon on va avoir mon nom, on va me téléphoner, qu'est-ce que tu fais comme support? Non. Par contre, il y a un moment, il faut se dire que la fonction d'animation, la fonction d'administration de maintenance du code, eh bien, c'est un service qu'il va falloir mutualiser. Et donc, comment gouverner ? Pas simplement faire ensemble, mais acheter ensemble un service, le mainteneur, celui qui ira donner le droit en écriture, répartir les bugs sur une forge, et qui sera mandaté par les gens qui ont payé le code pour animer la communauté. Pour l'instant, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Alors, ce n'est pas la seule solution, il y en a peut-être d'autres. Mais si on ne va pas jusque-là, si on prend l'exemple de Lily, d'autres exemples, eh bien, on n'avancera pas, parce qu'on restera dans la sphère des clients qui ne sont pas là pour faire du support. Voilà, c'est une possibilité. Je crois qu'une fois qu'on a fait le produit, il faut le faire vivre. Et ça fait partie du service de le faire exister. Pour continuer à le faire exister, il faut le mériter. Eh bien, ça a un prix. Voilà.
Autre question concrète. Quelle solution proposes-tu pour mutualiser les appels d'offres, par exemple, et éventuellement sur quelle plateforme ?
On pourrait très bien imaginer un wiki avec l'obligation de dépenser. Enfin, je dis un wiki pour trouver une solution, mais on peut très bien imaginer que la déclaration d'intention des appels d'offres soit quelque chose à quoi on s'oblige. Alors, si on ne s'oblige pas, ça peut être contraint. Mais il me semble que si le législateur savait combien on gagnerait en termes de mutualisation, pas simplement sur l'informatique, mais en termes de marché groupé, tout ce qui pourrait être économisé si en amont on faisait une déclaration d'intention, voilà, on trouvera vite l'outil. Hein. Si on sait combien on peut gagner d'argent, on trouvera vite l'outil.
Et qui alors ? À qui penses-tu ? Parce qu'en fait, je sais, quand tu t'es posé ces questions, effectivement, je sais très bien que tu as réfléchi aussi à qui pouvait prendre ce rôle-là. Parce qu'en fait, il y a plein d'entités aujourd'hui qui existent, hein, des agences de mutualisation, modernisation de l'État. Donc il y a plein d'endroits où, effectivement, on cherche à fermer le robinet. Mais voilà, qu'est-ce que tu imagines, en fait, toi, personnellement, comme étant le bon levier, le bon vecteur ?
Je crois que c'est Claude Allègre qui disait, avant d'être ministre, qui disait... Pour faire une réforme de l'éducation nationale, il ne faut pas commencer par en bas, il faut commencer par en haut. Il disait plutôt que de faire une réforme qui commence à la maternelle et qui monte progressivement vers les couches supérieures, il dit qu'il faut simplement changer le coefficient des maths à Polytechnique. Et à ce moment-là, tout change. Donc à quoi je pense ? Je pense tout bêtement à la loi. Si le législateur change les règles du jeu et dit en amont, sur un certain nombre de domaines dans lesquels on doit pouvoir, en s'y prenant en amont, mutualiser, il faut le faire, on doit le faire. Et on trouvera très vite toutes les structures qui vont l'organiser. Donc commençons tout simplement par la loi. Et donc la question, c'est effectivement de trouver le législateur. Je trouve que même si nous avons avancé dans la compréhension des enjeux, je regrette un peu les années 1999-2000, où à l'Assemblée nationale et au Sénat, on déposait des projets de loi en disant il faut faire en ligne. Et donc j'appelle de mes voeux quelqu'un qui se dirait on pourrait dépenser l'argent public autrement en ligne.
Et est-ce que tu as suivi l'annonce la semaine dernière ou la semaine d'avant du gouvernement italien qui justement va vers cette direction, en tout cas donc là par le législateur, en fait, d'imposer un usage systématique du logiciel libre,
évidemment,
et de renverser la preuve de l'utilisation d'autre chose.
Donc évidemment, c'est à ça que je pense. J'espère que Roberto, qui a fait passer l'information sur les listes, en parlera demain. Effectivement, je pense à ce genre d'initiative. Par la loi, on peut faire changer, effectivement, inverser la charge de la preuve pour s'obliger à l'utiliser. Mais je pense qu'il ne faut pas se demander comment on fait. Il faut demander tout de suite, faisons-le, on trouvera tout de suite les façons de faire.
Voilà. Les logiciels libres existaient avant l'Internet. Les logiciels libres sont une des raisons, sinon la raison majeure, de l'existence d'Internet. Personne ne conteste aujourd'hui l'intérêt d'Internet. Sûrement pas le monde économique, qui en profite largement. L'Internet est donc vu comme un outil qui sert l'économie. Question : pourquoi, à ton avis, les logiciels libres, et notamment quand on monte dans les couches, n'ont pas trouvé la même grâce en termes d'outils aux yeux des acteurs économiques.
Je pense qu'il y a un problème de complexité. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on regarde comment on produit, quand on produit un code, un serveur web ou ce genre d'objet, ce sont des objets qui sont finalement relativement petits. Lorsqu'on est sur des usines à gaz métiers, on est sur d'autres objets. Alors j'en profite pour dire qu'effectivement l'enjeu pour le livre, c'est de revenir à des choses qui ont fait l'informatique d'avant l'Internet. Pour schématiser, il y a deux informatiques. Il y a l'informatique extrêmement modulaire où on a des petits programmes qui font très bien une chose. C'était l'esprit Unix, hein. C'est une fonction dont la documentation est quatre fois plus grosse que la ligne de code, donc 50 pas de programme et puis une documentation de 70 pages. Et puis l'autre informatique, effectivement, qui explique qu'on a masqué, parce qu'on croyait que c'était forcément complexe, on a masqué par la complexité l'intérêt qu'il y avait à ouvrir. On s'est imaginé que seulement ça pouvait simplement se développer en mode bunker. Et le risque pour le libre, c'est d'imiter ça, c'est-à-dire de faire des usines à gaz en libre. Je pense qu'il y a un problème d'architecture. Si on veut aller vers une informatique métier ouverte et dont on voit l'intérêt en matière économique, il faut travailler sur des architectures. Pourquoi est-ce que le parapheur de la Dulac fonctionne bien? Parce qu'il est intelligemment construit en mode bus. Plutôt que de se dire on va signer chaque système avec son parapheur, c'est dit tout bêtement, on fait un parapheur qui sait faire une chose, signer. Quoi? N'importe quoi. Et donc voilà, je crois que c'est plutôt un point de l'architecture. C'est un peu aussi le hasard, c'est le fait qu'à un certain moment, Unix n'a pas percé au moment où dans les milieu des années 80, les PC sont couverts la planète. Si c'était un système Unix ou un système 5 qui avait inondé les PC, on n'en serait pas là. Malheureusement, c'est de l'informatique familiale qui a inondé les PC.
Oui, bonjour. Moi, je suis pas geek, alors je ne tweete pas, mais je pense qu'on peut poser des questions quand même. Je suis pas informaticien non plus, et je suis plutôt dans le camp des utilisateurs qui payent, hein, donc des clients, comme vous le disiez. Et il y a une omniprésence dans le discours, vous l'avez utilisé plus de 20 fois, c'est le terme code. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a une sorte de crainte dans le camp des gens comme moi. Quand on est face à des éditeurs et qu'on a un problème sur du propriétaire, la réponse c'est « je ne peux pas ». Alors ça veut dire « je ne peux pas », »,« je ne vais pas le faire pour toi parce que ça va me coûter trop cher s'il y a toi qui me le demande ». Et quand on est dans le monde du livre, qu'on a un problème, la réponse c'est souvent « c'est normal ». Au sens « c'est normal parce que j'ai conçu le truc comme ça ». Et quand on est utilisateur de base, on ne peut pas comprendre pourquoi c'est normal. Et donc, il faut respecter la vision, un peu plus, hein, je trouve, un peu plus la vision d'utilisateur qui ne peut pas comprendre ce que c'est que le code, qui n'est pas intéressé par ces questions-là, parce que sinon, dans les collectivités, alors du coup, que je représente, les gens qui ne savent pas, comme moi, peuvent avoir l'impression qu'on est sur une victoire du technicien sur le gestionnaire, et ça, c'est extrêmement frustrant, et on a beaucoup d'appréhension par rapport à ça.
Alors, c'est un point très important. C'est d'ailleurs une des questions qui intéresse Bernard Lang lorsqu'il réfléchit sur l'informatique. Et que, vous savez, on compare souvent le fait de conduire son automobile avec le fait de faire de l'informatique. Des gens qui vous disent « j'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a sous le capot pour conduire ». Bernard Lang pense que c'est une analogie extrêmement fausse et qu'il est très utile de comprendre ce qu'il y a sous le capot. Et qu'effectivement, il faut s'alarmer de ce que le code soit méconnu, soit peu enseigné. En France, on a beaucoup de retard dans l'enseignement de l'informatique ou de la compréhension. Il ne s'agit pas de faire des gens des programmeurs. Il s'agit de leur dire, vous savez, ce qu'il y a dans le code, c'est ce qu'il y a dans le discours de la méthode. Hein. C'est-à-dire, c'est des choses très très simples. Diviser en autant de parties qu'il soit requise un problème pour le mieux résoudre, enfin, des choses simples. Donc le code, ce n'est pas quelque chose qui doit faire peur. Simplement, nous, je crois qu'il ne faut pas se dire nous n'avons pas besoin de culture informatique. Pour continuer, et là, cette fois, c'est ce que nous avons comme effort à faire, dans les collectivités, nous avons quelquefois tellement externalisé qu'on a oublié de garder les compétences de dialogue avec les prestataires. Je disais un jour, pour exagérer, que le marché de l'informatique, c'était souvent quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il vend, qui discute avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il achète. certains d'ailleurs m'ont dit qu'ils ne vont pas détromper, hein. Des deux côtés d'ailleurs. Ce qui nous manque, c'est effectivement des acteurs qui soient des acteurs métiers, capables de dialoguer en se tutoyant avec les prestataires, en leur disant « si tu peux », ou alors « non, c'est pas deux jours, c'est trois heures ». Et donc nous avons besoin de compétences, de pilotage pour justement savoir ce qu'on nous dit. Et puis, ce qui manque le plus, et là on le voit à la Dulac, c'est peut-être la compétence que saluaient quelques-uns de nos partenaires, c'est que nous avons besoin de faire cette pédagogie pour parler à des acteurs métiers. Ce qu'on a découvert en 10 ans, et en dernier avec les Archives de France, c'est que finalement la question de l'informatique, c'est pas important. Alors ce qui nous tient à cœur, c'est que le code soit ouvert. Mais sur le terrain des métiers, ce qui est le plus important, c'est le métier. Et dans un groupe de travail de la Dulac, ce ne sont pas des acteurs d'informatique qui se retrouvent, c'est des acteurs métiers. Sur l'archivage, on ne parle pas d'informatique, on parle des archives, on parle du métier. Et donc, effectivement, ce qu'il y a à faire, et il faut que ce soit le plus transparent possible, c'est cette couture entre l'expert métier et l'informaticien. Et ça, effectivement, il faut que l'utilisateur ne soit pas entre le marteau et l'enclume. Mais par contre, je reviens à ce que je disais au début, je crois que l'analogie avec la voiture est fausse, et je crois qu'il importe, même jusqu'aux libertés publiques, il importe que nous ne laissons personne coder pour nous.
Une dernière question d'un DSI d'une collectivité territoriale, donc du côté client, sur le sujet du modèle économique des logiciels libres. Concrètement, à l'heure actuelle, la réalité côté collectivité territoriale, c'est aussi une maturité à accepter de mutualiser à travers les marchés publics. On a l'expérience, quelques DSI de collectivité territoriale, d'essayer de faire des groupements de commandes sur des logiciels. Alors, je sais bien que c'est pour les logiciels libres sur de l'expertise. Ceci dit, il y a une réelle difficulté et il y a surtout la mise en production qui est décalée par la longueur du marché. Donc, on a aujourd'hui un problème lié à ce modèle économique où il y aurait une solution à travers les marchés publics. L'autre gros problème du modèle économique à l'heure actuelle des logiciels libres en collectivité territoriale, vu notre fenêtre, c'est que nos décideurs, eux, attendent qu'on réduise le budget de fonctionnement grâce à des investissements TIC. Il faut trouver un moyen qui tente à prouver à nos décideurs, élus, DGS ou autres, que certes, ça coûte du fonctionnement et pas de l'investissement, mais que ce fonctionnement, par rapport au TCO, il est plus rentable.
Voilà. Alors sur la première question, très vite. Effectivement, on peut se dire, les groupements d'achat, c'est compliqué. C'est souvent des excuses de juristes. En général, on s'aperçoit que c'est pas si compliqué. C'est pas sinon si on compare à d'autres situations. Mais c'est vrai que par rapport à la solution qui consiste à dire « je veux la solution qui existe », c'est toujours plus long de la faire exister. Mais je reviens sur la deuxième question qui me semble beaucoup plus fondamentale, parce que c'est quand même très paradoxal. Quand on achète un OS avec la machine, ça passe en investissement. Et quand on développe du logiciel sur fonds publics, c'est-à-dire qu'on crée du patrimoine, ça passe en fonctionnement. Encore une chose que la loi pourrait sanctionner, c'est-à-dire rappeler que ce que nous faisons ensemble, c'est construire du patrimoine, c'est-à-dire produire des choses qui sont pérennes. Alors ça passe en fonctionnement, alors que ça devrait être justement un investissement. Mais vous avez raison, c'est un des points clés.